tous les mois sur Fréquence Mistral, retrouvez votre émission littéraire Des coups au cœur. Émission proposée par Anne-Marie Smith et Tiziana. L'association Littéra 05 vous propose de voyager au gré des pages et de vous évader avec les bouquins coup de cœur.
Ravie de vous retrouver pour une nouvelle lecture des coups au cœur de l'association Littéra 05. Aujourd'hui, je vous propose le dernier ouvrage d'Hubert Mingarelli, celui qu'il a écrit juste avant sa disparition à l'âge de 64 ans en janvier 2019. Il s'agit de Terre invisible, un court roman de 180 pages, court comme tous les livres d'Hubert Mingarelli. Ce livre a été publié chez Buchet-Chastel et il était sur la liste pour le Goncourt 2019. C'est d'abord une quête. Nous sommes en Allemagne, en juillet 1945, et le narrateur, dont on ne connaît pas le nom, est un photographe qui, à la suite de l'armée britannique, pénètre parmi les premiers à l'intérieur d'un camp de la mort. Et il y découvre quoi, au juste ? C'est quoi tous ces cadavres, ces apparents survivants, ces êtres humains qui n'ont plus forme humaine? Le narrateur ne trouve pas de réponse à ce qui est, pour son esprit, inenvisageable, impensable, problématique donc. Il ne sait pas ce que c'est et ne sait pas comment cela a été possible. Je vous lis un premier extrait. J'étais aux côtés de Collins lorsque nous pénétrâmes dans le camp. Collins avait fait entrer les camions et leurs feux éclairèrent en provoquant des ombres gigantesques et les gaz d'échappement nous étouffaient mais nous protégeaient de l'odeur. Une nappe grise flotta toute la nuit et au matin, le vent l'emporta. On avait couvert les morts avec des bâches. On avait porté les mourants dans les baraques et on les avait enveloppés dans nos couvertures. Ceux qui pouvaient marcher restaient dehors, en groupe, le long des baraques. Et ils regardaient vers le ciel, encore pâle, semblant y lire quelque chose. Et ils buvaient dans nos gourdes et mangeaient, pas plus vite que ça, le pain, la viande, les biscuits des rations de combat. Et le soleil se leva et on entendit des cris sauvages suivis d'une longue rafale. Et on vit venir vers nous un sergent, poussant devant lui un garde au regard désespéré. « Il y en avait trois, mon colonel. » Le sergent montra une cabane en planches près de l'entrée. Deux corps gisaient en travers de la porte. « Était là-bas. Celui-là, je l'ai raté. Qu'est-ce que je fais ?» Il le poussait avec sa crosse. « Hein ? Qu'est-ce que je fais ? Il y a encore la potence, mon colonel. Moi, ça ne me gêne pas. » « Je le fais. » Le survivant gémissait. La terreur lui donnait 40 ans. Il sanglotait et se passait la main sur la tête. Du sang coulait dans son cou. Collins était assis sur un banc, adossé à une baraque, les yeux cernés, et il sortit son revolver de l'étui et le pointa vers le ciel, juste au-dessus du prisonnier. Le canon tremblait. Le sergent fit un pas de côté pour éviter la trajectoire et soudain, Collins posa le revolver sur le banc, se leva et frappa le prisonnier au visage, puis le serra dans ses bras et à nouveau le frappa et l'étreignit à nouveau et on aurait dit qu'il lui parlait à l'oreille. Et tous les hommes présents à ce moment-là pensèrent comme moi qu'il avait bel et bien, lui, perdu la tête. Un avion russe nous survola en battant des ailes. On emmena le survivant et quelques jours après, Collins me confia dans un accès de désespoir, le seul qu'il me montra jamais. Nous étions tous fatigués, on ne voyait plus devant nous et j'avais peur de moi. Il s'interrompit. Son désespoir montait. Je détournai mon regard et lui, dans un souffle, « J'ai un fils ». Et mon Dieu, je vous jure qu'il avait ses yeux. Le narrateur, il est alors poursuivi par des images de mort, ces images qui vont le hanter la nuit, sous forme de cauchemars récurrents. Et ce sont ces images qui vont l'empêcher de rentrer chez lui et le pousser à entreprendre un voyage sur la terre allemande en quête d'il ne sait quoi, peut-être d'apaisement, peut-être réussira-t-il à saisir quelque chose de ce pays, de ce moment, quelque chose de ces gens. Qui sont ces gens? À quelle sorte d'humanité appartiennent-ils pour avoir laissé faire ça? Il veut donc photographier, je cite, « des gens de ce foutu pays ». Il veut capter leur image pour tenter de saisir quelque chose d'eux. Il a besoin d'explications. Terre invisible, c'est donc l'histoire d'un cheminement, physique dans l'espace pour s'éloigner de quelque chose, d'un traumatisme, ou alors tenter de l'apprivoiser. Pour ce voyage sans destination précise, le narrateur est accompagné d'un jeune chauffeur qui arrive d'Angleterre et qui n'a presque rien vu de la guerre. C'est une toute jeune recrue, O'Leary. Il a peut-être une vingtaine d'années, ou à peine. Il arrive à la fin. Il ne comprend rien, ne sait pas ce qu'il s'est passé. Oui, il est un petit peu en dehors du coup. Et ils partent donc en automobile, plus ou moins au hasard, à la rencontre de la population locale. Ils croisent sur leur chemin des gens de la campagne, des villageois, des gens simples. Et le narrateur, espérant saisir quelque chose de l'âme de ces gens, tire des clichés d'inconnus qui posent, seuls, en couple, en groupe, debout, devant leur porte ou dans leur cour. Ces gens sont désignés par des termes génériques dans leur récit. Il, l'homme, la femme, etc. Ils ne sont pas décrits et on aurait du mal à trouver un portrait dans Terre invisible. Un paradoxe pour un narrateur photographe. Je vous lis un deuxième extrait. En haut d'une côte, une maison basse se dressait entre deux tilleuls. Un chien dormait devant. O'Leary arrêta la voiture, coupa le moteur et mit sa casquette. Le chien souleva la tête, mais pas dans notre direction. À peine étions-nous descendus qu'ils apparurent à la porte et pendant un moment ne firent rien, puis vinrent vers nous si lentement qu'ils avaient l'air de partir pour longtemps. Ils étaient très vieux tous les deux. Elle s'approcha d'O'Leary, l'observa longuement, leva la main comme si elle allait lui caresser la joue et retourna vers la maison. Lui, il me fixait avec ses yeux humides de vieillard. Le chien poussa un soupir. O'Leary s'était adossé à la voiture. Le vieux s'approcha de lui, posa une main sur ses galons de deuxième classe et l'autre main sur son propre bras pour dire, sans doute, qu'il avait été un jour, lui aussi, un soldat de deuxième classe. O'Leary retira sa casquette pour faire quelque chose. La femme était ressortie de la maison et nous appelait. Un peu après, le vieux nous rejoignit devant la porte pendant que nous commencions à boire le café dans des tasses. Le chien ronflait, le soleil nous venait droit dessus. Lorsque je sortis l'appareil et leur montrai comment se tenir, ils n'eurent presque pas l'air surpris. Ils se rapprochèrent, se touchèrent l'épaule et pouffèrent en silence, semblant se moquer l'un de l'autre. Je me reculai, pris la photo et on se dit au revoir. On retourna à la voiture, O'Leary manœuvra et à peine eut-il retrouvé la route qu'il freina pour laisser passer une noix toute seule. On peut se demander, en lisant « Terre invisible », mais qu'est-ce qu'il traque, ce narrateur ? Peut-être des signes, des marques, des preuves de ce qu'on a pu appeler la responsabilité collective des peuples dans les crimes de masse et les génocides. Mais ces marques, il ne les trouvera pas. L'auteur ne nous en dit rien formellement, et c'est vrai qu'il nous laisse libres de nous faire une idée de la question. Une idée de la question, oui. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité collective, la responsabilité individuelle ? C'est la philosophe Hannah Arendt qui nous a laissé une pensée très riche à ce propos, notamment dans son ouvrage « Responsabilité et jugement » de 1966. Cette quête du narrateur dans le livre se révèle être la quête d'un objet introuvable et cette terre, une terre invisible. Car, en effet, c'est en vain que le narrateur déclenche son appareil. Ces gens ne lui apprendront rien. Déjà, il y a la barrière de la langue qui entrave toute communication verbale, mais au-delà de ça, leur apparence, leur attitude, leur regard n'expriment que crainte, désarroi, au mieux un sentiment, un semblant de curiosité. Ils sont indéchiffrables, ces personnages, et rien ne sortira de la chambre noire, ou pas grand-chose.
Das Herzland bläust, ungemurmelt verhudend, das Liedele tra-la-la-la. Da kommt ihr entgegen, a Bocher, a Schwarzer, mit Locken, mit Schwarze wie Pech. Flammt mit die Augen und entfährt ihr lustig und entfährt ihr tra-la-la-la.
Rien ne sortira de la chambre noire, ou pas grand-chose, pas de réponse, et pas même le début d'une explication. Et pas d'action dans Terre invisible, si ce n'est le déplacement de la voiture et des protagonistes dans un espace largement décrit, mais in fine insondable. Et de là, sans doute, naît cette impression du lecteur que, dans ce livre, il ne se passe rien. Et pourtant, le lecteur est parfois sur le qui-vive. La guerre, en fond de récit, implique incertitude, dilemme parfois, irruption toujours possible de la violence, et dans certains passages, on est comme suspendu à une écriture qui réussit à suggérer la tension. On pourrait presque parler, peut-être, de suspense. Et tout de même, quelque chose de l'ordre de la relation va se produire, de manière subreptice, comme une légère, ou très légère, impression d'empathie entre le photographe et certains de ceux qui, bon gré, mal gré, prennent la pose devant l'objectif. Et puis, empathie également pour le personnage du chauffeur, le jeune O'Leary, qui au cours du développement du récit va prendre plus de lumière et attirer davantage notre attention. Je voudrais souligner qu'il y a dans Terre invisible une forte présence de la nature, magnifique en été, vivante presque plus que les humains, présence de la terre, du ciel changeant de jour, de nuit, présence des nuages, de la lune, le soleil, les champs de blé, les pâturages, l'eau du fleuve, la pluie de l'orage, les arbres, les bois, les fleurs. Ainsi, il ne se passe rien. Entre les deux protagonistes, il y a très peu de mots. Ils ne se connaissent pas, en effet, et personne ne dit vraiment à l'autre ce qu'il est. O'Leary, le jeune chauffeur, ne sait pas ce que fait vraiment le personnage et pourquoi il le fait. On dirait qu'ils ne sont pas vraiment dans la même temporalité. Chacun a comme un secret qu'il tait. Et je vous lis un dernier extrait. On s'était assis. Les blés empêchaient de nous voir, mais j'entendais sa respiration. La lune flottait au-dessus de nous. À force de la regarder, elle se troubla. « Vous voulez boire ?» Il écarta les blés et me passa la gourde. Je bus un peu et la lui rendis. Il but à son tour. « D'accord, je vous ai dit que je regardais la mer comme ça pour rien à Lovestoft. Mais dans le fond, c'est pas vrai. C'était pas pour rien. » Je me forçais à demander. « Pourquoi, alors ?»« Je ne peux pas le dire, comme tu veux. » Il changea sa voix, elle baissa. « Vous aussi, comme vous voulez. »« Quoi, O'Leary ? » ?»« Vos photos ? » Vous n'êtes pas obligé de dire à quoi ça sert. Peu de dialogue dans le récit, donc. D'ailleurs, Mingarelli a eu l'occasion de dire que pour lui, les dialogues, c'est ce qu'il y avait de plus difficile à écrire. En effet, selon lui, un auteur est vite dans le ridicule si ça sonne faux. Or, Mingarelli, il est dans la recherche de la justesse. Il fait sentir les choses, il les suggère. Il ne les dit pas vraiment. Et si on comprend les personnages, c'est à travers leur comportement et non pas, comme je le disais, dans une description physique ou psychologique. Et finalement, s'il se passe quelque chose dans le récit qui serait de l'ordre de l'aventure, c'est peut-être ce qui arrive à la fin, quelque chose qui naît de l'expérience commune du voyage, quelque chose qui va rapprocher le narrateur et le jeune O'Leary, quelque chose qui pourrait être comme un nouveau commencement. O'Leary, le très jeune soldat qui a peur. « De quoi n'as-tu pas peur, O'Leary ?» lui demande le narrateur à un moment donné du récit. Car O'Leary est hanté, lui aussi, par des souvenirs malheureux de son enfance et de sa jeunesse à Lovestoft, Angleterre, de cette époque où, souvent, il allait dormir, loin de chez lui, dans les dunes. Que fuyait-il, O'Leary ?
Du siehst, ich bin ruhig, ich kusch dich nur, tra-la-la-la. Du liebst mich, ich lieb dich. Du schämst dich, ich schäm mich. Lieb mich und schäm sich und schweig. Und seh, wie es mischen sich pech schwarze Kreuzen mit goldene Tralala.
Merci de votre attention.
Die Sonne ist vergangen, der Bocher verschwinden, und Chavale sitzt noch in der Wald. Sie guckt in der Weitens und murmelt verhohlend das Liedele, tra-la-la-la. Sie guckt in der Weitens und murmelt verhohlend das Liedele.